Saint-Cyr Mag, numéro 12, novembre 2025, pages 12 à 15, grand angle, les coulisses de la programmation culturelle. Page 2, au sommaire de ce nouveau numéro, cadre de vie. Pages 4 et 5, autoconsommation collective patrimoniale en partenariat avec Enedis. Page 6, un théâtre de verdure en construction. Page 7, piéger les moustiques tigres. Page 8 et 9, au cœur des serres municipales, pages 10 et 11, les travaux de proximité. Grand angle, pages 12 à 15, les coulisses de la programmation culturelle. Proximité, page 16, des vacances inoubliables. Page 17, une nouvelle directrice au Moulin Neuf. Page 18, de futurs policiers municipaux en stage. Page 19, deuxième édition du forum En route libre. Pages 20 et 21, le portage de repas, un lien social. Page 22, des objets funéraires d'occasion en vente. Page 23, se paxer, mode d'emploi. Page 24, l'identité numérique France Identité. Page 25, défibrillateur, un maillage étoffé. Page 26 et 27, l'insertion par le travail. Focus. Page 28, Bottega Bastiano, la Dolce Vita à Saint-Cyr. Page 29, l'horloge Lusso de l'intérieur. Page 30 et 31, se mobiliser pour l'accessibilité. Page 32, nouveaux acteurs économiques. Page 33, regard d'élu. Page 34 et 35, en images. Magazine édité par la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, commune de Tours Métropole Val-de-Loire. Numéro ISSN 2495-87-00. Directeur de la publication, Philippe Briand. Rédacteur en chef, Benjamin Girard. Rédacteur, Hélène Charles, Alexia Neveu et Mélanie Merlot. Crédit photo UNE, Renaud Poulizac. Crédit photo, service communication, Freepik, Pixabay, sauf mention spéciale. Portrait du conseil municipal, David Darro. Conception et mise en page, Audaciosa. Impression, Imprimerie Vincent. Tirage, 11 500 exemplaires. Contact. communication@saint-cyr-sur-loire.com. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement. Page 3. Édito. Citation de Philippe Briand, maire de Saint-Cyr-sur-Loire, vice-président de Tours Métropole Val-de-Loire. Il est important que chaque enfant, quelle que soit sa situation, se sente bien à l'école. Question. Comment la rentrée s'est-elle déroulée? Réponse. Septembre est un mois important pour les parents et les enfants. Certains écoliers poursuivent leur scolarité dans l'établissement qu'ils connaissent bien. D'autres en font la découverte, changement d'école, d'instituteur, changement d'habitude. Aussi, il est important que chaque enfant, quelle que soit sa situation, se sente bien à l'école, soit écouté et puisse apprendre dans les meilleures conditions possibles. Les personnels de l'éducation nationale et les agents municipaux y veillent au sein des trois groupes scolaires que compte la ville. Les cours de récréation sont végétalisés, les zones de détente améliorées et le confort thermique est assuré. En ce sens, l'école Périgourd poursuit sa rénovation. Les travaux d'isolation par l'extérieur commenceront dès la fin de l'année, avec des interventions les mercredis ou durant les vacances scolaires, afin d'éviter de perturber la scolarité des enfants. Sans oublier la rentrée des tout-petits à la souris verte, ils sont 30 cette année à être accueillis par l'équipe des professionnels. Quant à la pirouette, 44 familles y sont accueillies. Question. Les travaux se poursuivent en ville? Réponse. Les chantiers de proximité se poursuivent sur tout le territoire. La rue Anatole France poursuit sa métamorphose qui vise à sécuriser le cheminement des piétons et des personnes à mobilité réduite, mais aussi à réduire la vitesse, notamment au carrefour avec la rue Edmond Rostand, avec la création d'un plateau surélevé. La zone sera paysagée et les matériaux et couleurs utilisés permettront d'éviter les îlots de chaleur. Les travaux du théâtre de verdure, en contrebas du parc de la Pérodière, ont été réalisés en septembre. Dès le retour des beaux jours, ce sera un lieu idéal de représentation théâtrale intimiste. Vous le remarquerez en pages 4 et 5, 4 ombrières ont été installées à proximité de l'escale. Près de 11% de l'électricité consommée par les bâtiments communaux proviendra de cette source d'énergie fin 2025. Je terminerai en évoquant la construction, déjà annoncée dans ce magazine, du premier bâtiment du cœur de ville le long de l'avenue de la République, à hauteur du carrefour avec la rue Jean Moulin. Un chantier attendu qui redynamisera le secteur et offrira de nombreux lieux de convivialité. Question : qu'en est-il des événements programmés ? Réponse : l'été a été animé et je suis heureux que nos rendez-vous prennent naturellement leur place dans l'agenda des Saint-Cyriennes et des Saint-Cyriens. Ils s'y rendent toujours plus nombreux et la réputation de certains d'entre eux n'est plus à faire. Je pense notamment aux marionnettes en balade, à quartier d'été, à la journée des associations, au lancement de la saison culturelle, et j'y associe aussi l'Escale Cabaret Club, dont la 5e édition se tiendra à l'Escale les 6 et 7 février 2026. Notre salle de spectacle sera aussi le théâtre de la traditionnelle soirée des vœux à la population. Je serai heureux de vous y retrouver pour un temps de partage, le mercredi 21 janvier 2026 à 19h. Pages 4 et 5. Cadre de vie. Énergie. Autoconsommation collective patrimoniale en partenariat avec Enedis. 4 ombrières ont été installées à proximité de l'escale. Soit un total de 665 panneaux photovoltaïques dont la production annuelle est estimée à 305 MWh par an. L'investissement de 500 000 euros devrait être rentabilisé en 8 ans. Entre parenthèses, durée de vie 25 ans. Pages 6 et 7. Cadre de vie. Environnement. Un théâtre de verdure en construction. Début septembre, des travaux ont commencé en contrebas du parc de la Pérodière pour réaliser un théâtre de verdure. Ce projet a vu le jour après plusieurs années d'échanges et de réflexions pour faire vivre et animer la partie basse du parc de la Pérodière, appelé le Jardin Conservatoire Bretonneau. Un projet suivi par les équipes techniques. Quand un projet de ce type est monté, un cahier des charges avec les teintes, les matériaux souhaités est publié. C'est un marché public. Après analyse financière et technique des dossiers reçus, c'est l'entreprise Travaux Aménagement Extérieur, TAE, située à Fondettes, qui a remporté le marché. Le projet se divise en deux phases. Une première phase de 5 semaines, pilotée par TAE, comprend la réalisation d'un mur de soutènement, la pose de réseaux d'éclairage divers et la mise en place d'assises en béton. Les dalles au sol ont été conservées pour créer un damier. Puis, c'est l'équipe des parcs et jardins de la ville qui a pris la relève d'octobre à novembre pour la deuxième phase du chantier. Les agents ont planté du gazon et quelques mûriers platanes en plateau pour faire de l'ombre, du romarin et de la lavande. En collaboration avec l'équipe culturelle, à travers cet espace culturel au cœur d'un écrin de verdure, l'envie est de donner à voir aux Saint-Cyriens un projet culturel différent. Le projet initial prévoyait une cinquantaine de places assises. Finalement, en le retravaillant conjointement avec le service culturel de la ville, les équipes techniques ont augmenté la jauge pour accueillir 90 personnes. Le projet a évolué au fur et à mesure de leurs échanges pour permettre une programmation culturelle adaptée au lieu. Ce théâtre de verdure voit le jour en lieu et place des sculptures Les Îlots de Claude Parent, prêtées par le Fonds Régional d'Art Contemporain, FRAC, jusqu'en mars 2025. Coût des travaux, 105 000 euros TTC avec les plantations. Page 7. Piéger les moustiques tigres. Photo de Éric Chaulière qui relève un piège. Innovalis est le laboratoire qui a remporté le marché de la surveillance des moustiques tigres en région Centre-Val de Loire. C'était il y a 5 ans, à la suite d'un appel d'offres lancé par l'Agence régionale de santé. Arrivé en France métropolitaine en 2004, le moustique tigre continue de s'implanter chaque année. Pour éradiquer les maladies qu'il peut véhiculer, la dengue, le chikungunya, etc., l'Agence régionale de santé, ARS, Centre-Val de Loire, a lancé un programme de piégeage par l'intermédiaire du laboratoire Innovalis. 4 pièges à Saint-Cyr-sur-Loire. Entre 350 et 400 pièges sont installés dans la région, dont 4 à Saint-Cyr-sur-Loire. 3 sont situés aux abords de la clinique de l'Alliance et le 4e dans le parc de la Pérodière. Nous relevons les pièges une fois par mois, excepté certains sur les sites sensibles, comme les hôpitaux, tous les 15 jours, nous confie Éric Chaulière, technicien de laboratoire chez Innovalis. Nous récupérons la petite éponge qui flotte dans le seau pour l'analyser au laboratoire. Nous observons si le moustique tigre a pondu dessus et nous en redéposons une nouvelle. La relève des pièges se fait de mai à novembre. Après, le moustique est moins actif, il arrête de pondre avec les températures qui chutent. Pour que la larve se développe, elle doit être au contact de l'eau. Il ne lui en faut pas énormément. Un bouchon de bouteille rempli d'eau suffit au moustique tigre pour se reproduire. La larve peut même se mettre en dormance s'il n'y a plus d'eau. Dès qu'il pleut à nouveau, le cycle peut repartir. Des enquêtes menées dans le cas de maladies infectieuses. L'ARS mandate aussi Innovalis dans des cas de dengue ou de chikungunya par exemple. Lorsqu'un cas est déclaré, nous menons une enquête autour de la zone où vit le patient. Nous recherchons tous les gîtes possibles des moustiques tigres, les récupérateurs d'eau par exemple. Nous prospectons toutes les habitations. Si nous découvrons un moustique tigre, il peut y avoir un traitement après décision de l'ARS. C'est une société privée qui effectue le traitement. Il s'effectue la nuit avec les autorités municipales. Un produit est pulvérisé, nous explique Éric Chaulière. Certaines enquêtes démarrent aussi après le signalement de la population sur signalement-moustique.anse.fr. Innovalis reçoit une alerte. Les techniciens vérifient qu'il s'agit bien d'un moustique tigre grâce à la photo envoyée. Pour chaque enquête demandée, nous prévenons la mairie pour que des agents municipaux nous accompagnent sur le terrain. Par exemple, la police municipale pour rassurer les habitants, conclut Éric Chaulière. Pages 8 et 9, cadre de vie. Environnement, au cœur des serres municipales. C'est au centre technique municipal rue du Mûrier que se cachent les serres municipales, pouponnières des plantes qui fleuriront la ville demain. Une équipe d'horticulteurs passionnés veille sur elles. Construites en 2010, ces serres ont été mises en service en 2011. Avant leur construction, il existait déjà des serres situées rue Bretonneau. La première serre a vu le jour à la création du service des parcs et des jardins en 1968. Le service s'est agrandi avec deux autres serres en 1973 et 1974. Rue du Mûrier, les plantes grandissent réparties entre une serre chauffée de 320 m² en verre, une autre de 380 m² en plastique, maintenue hors gel et 250 m² de tunnel extérieur non chauffé. Photo des serres rue Bretonneau. Un binôme passionné. Julie et Philippe travaillent en binôme aux serres respectivement depuis 8 ans et plus de 35 ans. Tous les deux sont horticulteurs. Leur quotidien varie selon la période, entre les semis, les boutures, rempotées, arrosées. C'est la diversité des missions qui leur plaît, mais aussi voir l'évolution de la graine, ajoute Philippe. Nous rempotons 20 000 plantes en ce moment pour les massifs d'hiver et on fait la même chose au printemps pour les massifs d'été, souligne Julie. Nous produisons environ 150 variétés de plantes pour les massifs d'hiver et environ 200 variétés pour les massifs d'été. Cela représente un tiers de semis, un tiers de jeunes plants et un tiers de godets finis. Au-delà du travail dans les serres, Julie et Philippe s'occupent des décorations florales lors d'événements de la ville. La création des massifs. Julie travaille aussi sur la création des massifs avec Émilie, Thierry et Jean-Noël, jardiniers à Saint-Cyr-sur-Loire, tous volontaires et passionnés, mais tous les agents restent actifs à ce sujet. On se réunit un an avant la plantation des massifs pour choisir un thème avec trois couleurs maximum. On les fait valider, puis on établit une liste des plantes. C'est ce qui nous permet d'anticiper la production. Chaque équipe reste autonome sur la création des massifs de son secteur. Le fil conducteur est une couleur avec en année 1, 100% de cette couleur, en année 2, 60% et en année 3, 30%. Le but est de garder certaines plantes pour avoir un fleurissement plus abondant. On travaille aussi de plus en plus avec les vivaces pour un fleurissement plus durable. Chiffres clés. 1400 m² de massifs floraux, 19 000 m² de vivaces, 3800 m² de rosiers, 68 000 m² de terrain entretenu, 1000 chrysanthèmes. Pages 10 et 11, cadre de vie. Les travaux de proximité. Agents de la ville et métropolitains œuvrent au quotidien pour vous offrir le meilleur cadre de vie possible. Tour d'horizon des chantiers réalisés, en cours et à venir. Travaux sur les infrastructures. 1. Rue du Mûrier. Rénovation de l'éclairage en LED. De septembre à décembre 2025. 2. Rue du Chambriquet. Réfection de la chaussée, entre parenthèses, enrobée. Août 2025. 3. Rue Condorcet. Pose de mât solaire pour l'éclairage. De septembre à décembre 2025. 4. Allée de la Grosse Borne. Pose de mât solaire pour l'éclairage. De septembre à décembre 2025. 5. Parc Jean-Yves Couteau. Pose de pergola. En août 2025. 7. Allée René Bonamy. Pose de mât solaire pour l'éclairage. De septembre à décembre 2025. 8. Rue Alexis de Tocqueville et allée Paul-Louis Courrier. Pose de mât solaire pour l'éclairage. De septembre à décembre 2025. 10. Rond-point Level. Aménagement d'une piste cyclable du réseau Vélival. De juillet à août 2025. 11. Allée de Craquebille. Pose de mât solaire pour l'éclairage. De septembre à décembre 2025. 12. Rue du Vaux-Ardeau. Réfection de la chaussée, enrobée, en octobre 2025. 13. Rue Émile Roux, Pierre Beauchin et Honoré de Balzac. Rénovation de l'éclairage en LED, en septembre 2025. 14. Rue Lucie et Lucien Fournival. Pose de masse solaire pour l'éclairage, de septembre à décembre 2025. 15. Place André Malraux. Pose de masse solaire pour l'éclairage, en juin 2025. 16. Rue Maurice Adrien. Rénovation de l'éclairage en LED, de septembre à décembre 2025. 17. Rue de Bagatelle et Allée de la Boisserie. Pose de masse solaire pour l'éclairage, de septembre à décembre 2025. 18. Rue du Bocage et du Docteur Calmette. Création d'un giratoire surélevé au niveau du carrefour, en août 2025. 19. Rue du Bocage. Réfection de la chaussée, enrobée, en octobre 2025. 20. Rue Georges Guérard. Aménagement des trottoirs, en novembre 2025. 21. Allée de la Cheminée Ronde. Création de plateaux et avaloirs pour la gestion des eaux pluviales, octobre 2025. 23. Rue Victor Hugo. Élargissement des trottoirs, en septembre 2025. 24. Parc de la Pérodière. Rénovation de l'éclairage en LED, de septembre à décembre 2025. 25. Rue du Pain Perdu. Réfection de la chaussée, enrobée, en octobre 2025. 26. Rue Bretonneau. Création d'un carrefour surélevé, en septembre 2025. 27. Rue, place et allée Palu de l'Essert et allée des Tilleuls. Pose de masse solaire pour l'éclairage, de septembre à décembre 2025. Travaux sur les espaces verts. 6. Quartier de la Ménardière. Aménagement des espaces verts en décembre 2025. 9. Complexe Guy de Rue, Plantation, novembre 2025. 22. Groupe scolaire Honoré de Balzac, Anatole France. Réalisation d'un talus synthétique en juillet et août 2025. Pour s'informer sur les travaux en cours, il y a un QR code à flasher. Pages 12 et 13. Grand angle. Culture. Les coulisses de la programmation culturelle. Le coup d'envoi de la saison culturelle 2025-2026 a été donné le 25 septembre dernier à l'Escale. Rencontre avec Catherine Roussel, directrice du service, et Céline L'Huillier, médiatrice, pour découvrir les coulisses d'une programmation culturelle. Cette soirée de lancement, tout comme la sortie de la plaquette de saison pendant l'été, sont deux marqueurs de l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Ils rendent visible le travail de programmation mené dans l'ombre pendant plus d'une année. Céline confie « Nous sommes fiers de remettre la plaquette au public. C'est un travail d'équipe mené avec le service communication qui permet de rendre concret et lisible tout le travail réalisé jusqu'ici. » La soirée de présentation à l'Escale est également un moment fort pour le service culturel. Catherine explique « Nos abonnés sont demandeurs. C'est un moment de partage qui permet de lancer les festivités avec une nouvelle soirée qui permet de lancer les festivités pour une nouvelle année avec un spectacle offert. Cette soirée à l'Escale permet aussi de mettre un coup de projecteur sur des spectacles plus difficiles à appréhender par une simple lecture du programme. Certains artistes viennent présenter eux-mêmes leur spectacle. Chaque année, le nombre d'abonnements vendus est en hausse. Cette année, c'est 272 abonnements en un mois, un signe que la programmation plaît au public de l'Escale. Photo de Céline L'Huillier et Catherine Roussel. Photo de Basset Ebong qui présente le concert à venir du 4 décembre. Repérez les bons spectacles. Pour cette saison 2025-2026, le travail de programmation a réellement débuté en juillet 2024 avec le Festival Off d'Avignon. Catherine s'y rend chaque année afin de sélectionner les spectacles qui pourraient plaire aux Saint-Cyriens. Il est impossible de tout voir. Je garde en tête la ligne artistique souhaitée par la ville, le théâtre musical, les marionnettes, enfants et adultes, et le théâtre d'objets, précise Catherine. Le service culturel complète ensuite sa sélection avec des spectacles issus du festival Chaînon Manquant, festival national pluridisciplinaire, ainsi que les festivals Récidives et les Déferlantes, principalement pour la programmation jeune public, les marionnettes et les arts de la rue, en prévision de quartiers d'été, dont se charge Laure Pétiot, adjointe à la directrice. Enfin, la ville est membre du réseau Scène au Centre, une fédération de programmateurs qui fait de la veille artistique. Des journées sont organisées pour présenter des projets, parfois en cours de création de compagnies de région Centre-Val de Loire. L'ensemble des spectacles présélectionnés est présenté aux membres de la commission culture qui doivent donner un avis favorable pour que la programmation soit validée. Des contraintes artistiques, techniques et budgétaires. Le service culturel doit également prendre en compte les contraintes techniques de certains spectacles. La salle de l'escale est peu profonde, ce qui n'est pas adapté pour tous les spectacles de danse. Pour respecter le budget voté par le conseil municipal, il faut savoir jongler entre découvertes et artistes confirmés. Nous essayons d'avoir chaque année une tête d'affiche, telle que Clémentine Sélarié l'année dernière ou Lisa Martineau pour cette nouvelle saison. Catherine ajoute « Le festival Chaînon Manquant nous permet d'obtenir des tarifs préférentiels vraiment intéressants. Le festival négocie les tarifs d'achat du spectacle dans le cadre d'organisation de tournées dans toute la France. À l'issue du festival, nous nous réunissons entre programmateurs d'une même région pour partager nos coups de cœur et voir s'il est possible de mutualiser les frais d'hébergement et de transport des compagnies. » Pages 14 et 15. Grand angle. Soutenir la création et encourager la découverte. En parallèle de la programmation à l'escale, la ville accueille des compagnies en résidence pour des durées plus ou moins longues afin de leur permettre de travailler en conditions réelles de représentation. Les sorties de résidence permettent aux artistes de présenter une part ou l'intégralité de leur travail et de recueillir les premières impressions du public. Un moment privilégié pour les spectateurs qui plongent dans des univers inédits, découvrent des créations en cours et rencontrent les artistes au plus près de leur travail. Cette année, plus d'une dizaine de résidences sont prévues tout au long de la saison. La ville apporte également son soutien à des compagnies locales, souvent accueillies en résidence dans leur processus de création, en préachetant leur spectacle. Il intègre ainsi la programmation, sans avoir été encore présenté dans son intégralité. C'est un soutien indispensable pour ces créations, afin qu'elles se rôdent, trouvent leur public et séduisent d'autres programmateurs et programmatrices. L'année dernière, nous avons ainsi proposé La Lilo, précise Catherine. Un travail qui continue toute l'année. Le travail du service culturel ne s'arrête pas à la sortie de la plaquette. C'est un travail conséquent qui est mené toute l'année en coulisses pour que chaque spectacle se déroule au mieux. Cela ne commence pas lorsque les comédiens montent sur scène et tout ne s'arrête pas quand le public s'en va, explique Céline. Il faut en effet communiquer sur chaque spectacle, gérer la billetterie, le règlement des taxes après la représentation, exemple la SACEM, etc. En parallèle de la représentation, les agents gèrent le transport, l'hébergement, les repas, en fonction de ce qui a été convenu lors de la signature du contrat. Un travail est également mené avec les régisseurs de la salle de l'escale, qui sont garants du bon déroulement du spectacle. L'ensemble des fiches techniques des spectacles programmés leur est remis. Les régisseurs vérifient les conditions techniques à respecter, son, lumière, et déterminent si des régisseurs techniques supplémentaires sont nécessaires pour assurer la qualité du spectacle, technicien son ou lumière. Des coûts techniques ou de logistique s'ajoutent ainsi aux coûts de session de chaque spectacle, précise Catherine. Enfin, dans une démarche d'accès au spectacle vivant pour le plus grand nombre, le service culturel met en œuvre des actions de médiation réfléchies avec et en fonction des groupes de spectateurs, personnes isolées, en situation de handicap, seniors, associations ou encore établissements scolaires. Ces actions sont façonnées en relation avec les structures bénéficiaires. La ville de Saint-Cyr-sur-Loire est désormais bien identifiée comme acteur culturel. C'est la première année que des établissements non démarchés contactent le service culturel pour établir un partenariat, s'enthousiasme Céline. J'emmène mes parents au spectacle. Avez-vous déjà profité d'un spectacle en famille? Certaines représentations sont adaptées aux tout-petits dès leur naissance. Chaque année, des spectacles jeunes publics trouvent leur place dans la programmation de la saison culturelle. Ces spectacles conçus spécialement pour les enfants invitent à explorer les arts sous toutes leurs formes, danse, théâtre, musique, marionnettes, etc. afin d'encourager la curiosité, la créativité et la sensibilité artistique. Le temps est généralement assez court, adapté à l'âge des spectateurs et à leur capacité de concentration, et la jauge limitée pour favoriser l'attention. Les spectacles pour les plus jeunes mettent tous les sens en éveil et invitent les adultes à se laisser surprendre. Ceux pour les plus grands, à partir de 10 ans, abordent des thématiques plus sensibles, ancrées dans le réel et toujours porteuses d'espoir. C'est l'occasion précieuse pour les familles de partager ensemble un temps fort en toute complicité. Un guide pour les jeunes spectateurs. Le service culturel de la ville travaille actuellement à l'élaboration d'un guide du spectateur et de la spectatrice. Ce livret sera remis à chaque enfant lors des séances jeunes publics et scolaires pour les accompagner avant, pendant et après le spectacle. Ce guide présentera notamment le lieu du spectacle et donnera quelques éléments de contexte. Exemple, qu'est-ce qu'une compagnie de théâtre ? Et rappellera quelques consignes pour le bon déroulement de la séance. Il invitera également le jeune spectateur à s'interroger après la représentation sur les émotions ressenties, ce qu'il en a retenu, ce qui l'a particulièrement marqué, etc. Des éléments qu'il peut également partager en classe ou avec ses parents. La programmation Jeune Public 2025-2026. Le 18 novembre à 19h, La Fabuleuse Histoire de Bazarcus, des 3 ans. Le 12 décembre à 15h, Mira Mundi, de 0 à 4 ans. Le 31 janvier à 11h, Chemin des métaphores, dès 5 ans. Le 14 avril à 15h, Western coquillette, dès 3 ans. Le 12 juin à 15h, Ne m'attends pas, dès 4 ans. Réservez vos places sur billetterie.saint-cyr-sur-loire.com. Pages 16 et 17. Proximité. Jeunesse. Des vacances inoubliables. Hashtag Cap Jeune fait carton plein. Que ce soit pour les activités se déroulant à Saint-Cyr-sur-Loire ou pour les camps organisés à l'extérieur, pas moins de 50 jeunes âgés de 11 à 16 ans ont été accueillis chaque semaine tout au long de l'été. Vacances détente à Bourg-Franc. Cette année, la destination Colo de bord de mer s'est établie à Bourg-Franc-le-Chapu, commune de Charente-Maritime, bien connue pour abriter le Fort Louvois. Un séjour à la carte de 8 ou 15 jours, entre le 18 et le 31 juillet, pendant lequel les enfants ont pu pratiquer de nombreuses activités nautiques. Cap sur l'île de Beauté. Un petit groupe de jeunes âgés de 14 à 17 ans a découvert la Corse en séjour itinérant du 10 au 23 juillet. Au programme, visites, randonnées et baignades sur l'île méditerranéenne aux multiples facettes. Accompagnement vers la parentalité. L'arrivée d'un enfant peut susciter de nombreuses interrogations chez les futurs parents. Pour les accompagner au mieux dans cette étape de leur vie, Élodie Fontaine, responsable de la petite enfance, remet aux parents qu'elle reçoit le manuel des jeunes parents, de Genépi Édition. 150 pages de conseils utiles, repères pour la vie quotidienne avec un tout petit et informations sur les services et structures saint-cyriennes. Une nouvelle directrice du Moulin Neuf. Recrutée en début d'année, Clara Lozada, ancienne professeure des écoles, a vécu son premier été en tant que directrice de l'accueil de loisirs du Moulin Neuf. 2 mois intenses pendant lesquels près de 450 enfants se sont croisés. Âgée de 28 ans, Clara Lozada a déjà un parcours professionnel riche, avec pour dénominateur commun l'enfance et l'éducation. Animatrice et directrice de séjour à Luynes de 2014 à 2023, elle a également été professeure des écoles de 2021 à 2024. Question : quel est votre rôle ? Réponse de Clara Lozada : je suis le lien entre les animateurs et les parents. Je veille au bon fonctionnement du centre, j'accompagne les animateurs. Tout au long de l'année, 14 animateurs sont en poste dans les écoles. Le mercredi, ils sont une trentaine, et l'été, ils peuvent être jusqu'à 100. Un projet pédagogique guide nos actions en faveur du développement de l'autonomie de l'enfant, de sa motricité, et afin de le sensibiliser au développement durable et à la pratique du sport. Pour nous, l'essentiel, c'est que l'enfant soit heureux et content de venir au centre. Question : comment s'est déroulé ce premier été ? Réponse de Clara Lozada : tout s'est très bien passé. J'ai aimé découvrir le parc dans sa configuration estivale. J'ai assuré la direction pendant le mois de juillet avec 4 adjoints. Alexia Godin, également adjointe les mercredis, Romane Moreis, Héloïse Chérault et Aurélien Naël. En août, Théo Goello a pris les fonctions de directeur, secondé par Julien Guilly, Anaïs Fabre et Prune Cornec. Je tiens à les remercier, sans oublier David Caillot, qui est le référent demi-journée à l'école Charles Perrault. Question : pourquoi avoir choisi Saint-Cyr ? Réponse de Clara Lozada : Tourangelle de naissance, je connais bien Saint-Cyr, et j'avais entendu parler de son centre de loisirs situé à Maitré. Je me suis dit que le poste devait être riche, avec des perspectives d'évolution. Je quittais l'éducation nationale en Seine-et-Marne, j'avais à cœur de continuer à travailler dans le milieu de l'enfance et de l'éducation, et de retrouver mon conjoint à Tours. Question : quels sont vos projets ? Réponse de Clara Lozada : je souhaite développer la communication auprès des parents et accompagner les animateurs, que ce soit à leur embauche par la remise d'un livret d'accueil, que pendant leur parcours en établissant un plan de formation. Je souhaite maintenir et développer les partenariats en cours avec des associations, des EHPAD. Cette année, des rencontres intercentres ont vu le jour, nous sommes allés à Luynes et nous devrions recevoir Amboise. Question : comment voyez-vous l'été prochain ? Réponse de Clara Lozada : jusqu'à présent, 2 directions géraient l'été, une pour le mois de juillet, l'autre pour le mois d'août. J'aimerais que les 2 directions travaillent ensemble pour préparer la période estivale, comme pour les phases de recrutement. L'objectif est d'établir une cohérence dans le service proposé aux familles, avec comme fil conducteur l'épanouissement des enfants. Pages 18 et 19. Proximité. Sécurité. De futurs policiers municipaux en stage. En 2025, la police municipale saint-cyrienne a accueilli 4 stagiaires en bac pro et 3 stagiaires en formation initiale d'application des gardiens de police municipale, FIA, parmi lesquels Quentin et Vallier que nous avons rencontrés. Le métier de policier municipal est un métier de terrain et de proximité qui agit sous l'autorité du maire. Il a pour mission la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Deux parcours singuliers. Quentin et Vallier, âgés respectivement de 29 et 46 ans, ont tous les deux passé le concours national pour accéder à la FIA. Pour Quentin, la police n'est pas un univers inconnu, puisqu'il est adjoint de sécurité depuis 6 ans, appelé aujourd'hui policier adjoint. Il a travaillé 3 ans à Orléans et il est à Tours depuis 3 ans. Vallier, lui, en est à sa 4e vie professionnelle. Après avoir travaillé plus de 18 ans à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire au service des parcs et jardins, j'avais fait le tour et j'ai eu l'occasion d'échanger avec les policiers municipaux qui m'ont ouvert les yeux sur leur métier. Ça a éveillé ma curiosité. Il a passé son concours en 2024 pour commencer le 1er février 2025 en tant que gardien brigadier stagiaire à Tours. La pratique au cœur de la formation. On apprend à écrire des rapports, les attributions du maire, les polices spécifiques, le code de la route, les foires et marchés, nous explique Quentin. La formation dure 6 mois et compte 20 jours de stage pratique d'observation, dont 5 jours en police municipale. Les stages sont l'occasion d'être sur le terrain. Depuis que je suis arrivée, j'ai pu faire du contrôle routier et des patrouilles de surveillance sur la voie publique, nous confie Quentin. Vallier raconte quant à lui avoir été appelé pour un accident sur les bords de Loire. Deux voitures se sont percutées, il faut gérer la régulation de la circulation, prendre en charge les personnes jusqu'à l'arrivée de la brigade des accidents qui dépendent de la police nationale, appeler les pompiers, etc. Une motivation identique. Ces deux hommes n'ont pas les mêmes parcours et pourtant ils partagent la même motivation à être au contact de la population. Quentin précise, on prend plus le temps avec les citoyens qu'en police nationale. Vallier aime rendre service aux administrés et se sentir utile. Il ajoute, ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas de routine. Tu embauches et tu ne sais pas comment va se dérouler la journée. À l'issue de leur formation, les deux hommes exerceront à la police municipale de Tours. Deuxième édition du forum En route libre. Pour la deuxième année consécutive, la ville a organisé En route libre, un forum autour de la sécurité routière, en collaboration avec la préfecture d'Indre-et-Loire à l'Escale, mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre. Après le succès de la première édition, la ville a décidé de renouveler son engagement envers la sécurité routière avec une nouvelle édition du forum En route libre sur 2 jours. Le mardi 30 septembre était une journée dédiée aux scolaires et le mercredi 1er octobre au grand public. La genèse du forum. En route libre est née de nos actions pour les scolaires, nous explique Karine Ascar, responsable de la police municipale de Saint-Cyr-sur-Loire. Nous sensibilisons déjà les écoles primaires et les collèges à la sécurité routière chaque année, mais ce n'était pas suffisant. Nous remarquions que des jeunes prenaient encore des risques. Et des Saint-Cyriens s'interrogeaient aussi sur le comportement de certains usagers de la route, comme les trottinettes, souligne Karine Ascar. Un réseau de partenaires. Cet événement a vu le jour grâce au soutien de la préfecture d'Indre-et-Loire, qui a financé à hauteur de 3 000 euros l'édition 2025, mais aussi grâce à l'engagement de partenaires. Parmi eux, Mouvi et leurs voitures électriques, la Fondation Vinci Autoroute et ses lunettes de réalité virtuelle, l'Association de la sécurité routière et ses trottinettes électriques, le Club motorisé de la police nationale et son simulateur de moto, l'auto-école Automoto Prudence et ses cours de conduite, l'ADATEP 37 et son car pour sensibiliser aux angles morts, Vélival et ses parcours en vélo dans la région, Fil Bleu et son bus installé devant l'Escale. Une journée dédiée aux scolaires. Mardi 30 septembre, de 8h à 16h30, plus de 200 élèves des collèges L'Abbé Chalery-Bergson et du Dame du Mûrier sont venus au forum. Ils ont été sensibilisés à l'importance du partage de la route entre piétons, vélos, trottinettes, etc. grâce aux différents ateliers des partenaires. Deux pompiers du SDIS, Service départemental d'incendie et de secours, étaient présents aussi lors de cette première journée. L'objectif est de pérenniser cette manifestation. L'édition 2026 est d'ailleurs d'ores et déjà programmée aux mêmes dates que cette année, le 30 septembre pour les scolaires et le 1er octobre pour le grand public. Pages 20 et 21. Proximité. Social, le portage de repas, un lien social. Le portage de repas est un service proposé et organisé par le Centre de vie sociale depuis plus de 30 ans à Saint-Cyr-sur-Loire. 80 personnes à mobilité réduite ou isolées en bénéficient. Ce service à domicile est régi par un marché public conclu en avril 2023 avec la société Clémence et Antonin située à Neuville-de-Poitou. nous avons suivi Jérémy, le livreur, qui s'occupe de la tournée de Saint-Cyr-sur-Loire. Ce jeune homme de 22 ans est livreur depuis 2 ans. J'aime prendre le temps d'échanger avec les gens. Témoignage. Madame Marie, 86 ans. Chaque matin, du lundi au vendredi, Jérémy livre un repas à Madame Marie. Il pousse la porte déjà entrouverte, se présente. « Bonjour Madame Marie, c'est Jérémy. » et rentre. Ce matin-là, l'octogénaire est assise à sa table de cuisine en train de lire. Elle se fait livrer des repas depuis 2 ans. « Il me fallait quelqu'un pour faire mes courses. J'ai déjà une aide à domicile, mais ce n'était plus suffisant. Et je ne pouvais pas me permettre de prendre une personne en plus. » Elle a donc décidé de faire appel à ce service de portage de repas proposé par le centre de vie sociale. Elle choisit ses plats chaque mois parmi une liste de repas possibles. C'est extrêmement important, voire indispensable pour moi, de pouvoir bénéficier de ce service. Je suis seule. C'est sécurisant pour mon fils aussi. Il y a quelqu'un qui passe tous les jours. Jérémy est certainement plus au courant de ma vie que ma petite fille. On se voit 5 jours sur 7. Ça crée du lien. Madame Gigou, 87 ans. Quand Jérémy la livre, Madame Gigou ouvre immédiatement le sac en plastique pour découvrir les plats. « Je ne me souviens pas toujours de ce que j'ai pris », dit-elle en souriant. À 87 ans, Jacqueline s'est retrouvée aidante après une maladie grave de son mari en 2020. « Cela fait plus de 2 ans que je fais appel au service de portage de repas. Ça m'aide. Au départ, je prenais 2 repas tous les jours et maintenant, je n'en prends plus qu'un 3 fois par semaine. Mon mari préfère que j'aille lui prendre des plats à la boucherie. » Au-delà du repas équilibré livré à son domicile, Jacqueline salue les qualités de Jérémy. Il est vraiment professionnel, il sait parler aux personnes âgées, et il est prêt à rendre service. Un jour, ma voisine handicapée a eu un problème avec son alarme incendie. Jérémy est allé l'aider. Jérémy répondit « C'est normal. » « Pour toi, mais pas pour tous, » renchérit Jacqueline. Le jeune homme est modeste, mais Jacqueline poursuit. Une fois, Jérémy est arrivé en retard. J'étais surprise. Et il m'a expliqué qu'en livrant une femme qui vit seule, ce matin-là, il n'avait pas eu de réponse. Il a appelé sa fille, les pompiers sont arrivés, la femme était tombée. Jérémy ajoute « Ça m'est arrivé plusieurs fois d'appeler les pompiers. » Jacqueline souligne « À nos âges, c'est très important le lien. Je parle peu maintenant avec mon mari parce qu'il est amoindri. Alors quand je vois Jérémy, je suis contente de pouvoir discuter. Il y a des matins où je suis abattue. C'est une présence. Quelques mots échangés parfois, juste « ça va ce matin », mais parfois il y a des actualités. » Le service de portage de repas représente plus qu'un repas équilibré livré à domicile. Il est un lien social important qui contribue au maintien à domicile de Madame Marie, Madame et Monsieur Gigou et ses autres bénéficiaires. Page 22. Proximité. Vie citoyenne. Des objets funéraires d'occasion en vente. La ville met en vente des objets funéraires d'occasion, 29 pierres tombales et 75 objets, parmi lesquels des plaques, des vases, des jardinières ou bien encore des crucifix. C'est une initiative qui peut surprendre, pourtant elle a déjà été mise en place dans d'autres villes de la métropole, mais aussi ailleurs comme à Quimper. Des objets issus de reprises administratives. Exposés au cimetière Montrepos, les monuments et autres objets funéraires d'occasion en vente sont issus de reprises administratives de concessions échues depuis plus de 2 ans. Les monuments et objets deviennent alors la propriété de la commune, précise Edwige Winandy-Proust, responsable du service état civil, élections et formalités administratives. Jusqu'à maintenant, la ville les faisait détruire. Seulement, cela représente un coût et ce n'est pas écologique, souligne Edwige Winandy-Proust. Plus d'une centaine d'objets, les 29 pierres tombales en vente sont toutes vendues au même prix, 300 euros, qu'elles aient ou non une stèle ou un passe-pied, soit 3 à 4 fois moins cher que des neuves. Nous avons décidé de les mettre en vente pour les personnes qui n'ont pas les moyens financiers d'en acheter une neuve, explique Edwige Winandy-Proust. L'acheteur aura à sa charge financière le transport et la pose du monument dans un cimetière à Saint-Cyr-sur-Loire ou dans une autre ville par un professionnel agrémenté, un marbrier ou des pompes funèbres. Il a aussi l'obligation d'effacer les inscriptions en faisant soit polir et regraver, soit en posant une plaque. Il y a également de nombreuses plaques à la vente, mais aussi des vases, des jardinières et des crucifix. Ce sont 75 objets en tout qui sont installés au fond du cimetière Montrepos, à côté des pierres tombales. Seuls ceux en bon état ont été conservés et Edwige Winandy-Proust précise que les petites inscriptions sont dévissables et remplaçables sur les plaques. Contact, si vous êtes intéressé par l'un de ces objets, service état civil. Téléphone 02 47 42 80 60. Adresse mail etatcivil-election@saint-cyr-sur-loire.com. Page 23. Décryptage. Ce PACSE, mode d'emploi. Le pacte civil de solidarité, PACS, est un contrat conclu par deux personnes majeures de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune dans un cadre juridique stable. Quelles conditions ? Avoir 18 ans ? Ne pas être marié ou PACSE ? Ne pas avoir de lien de parenté ou d'alliance ? Article 515.2 du Code civil. Être juridiquement capable. Un majeur sous tutelle ou curatelle peut se PACSer sous certaines conditions. Où se PACSer ? À la mairie du lieu où les partenaires déclarent fixer leur résidence commune. Chez le notaire. Je me PACSe à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire. Les étapes. 1. Constitution du dossier. Déclaration conjointe de PACSe. CERFA numéro 15-725-03. Convention de PACSe. CERFA numéro 15-726-02. Copie intégrale des actes de naissance moins de 3 mois. Photocopie des pièces d'identité en cours de validité. Les formulaires sont disponibles sur www.service-public.fr/particulier/vaudroit/F1618. Si l'un des partenaires est de nationalité étrangère, il convient de contacter le service état civil. 2. Dépôt du dossier au service état civil sur rendez-vous. L'officier d'état civil vérifie la conformité des documents. Si le dossier est complet et conforme, il prendra contact avec vous pour fixer un rendez-vous pour l'enregistrement du PACSE. Délai d'environ 15 à 20 jours. 3. Signature et enregistrement du PACSE sur rendez-vous. Les deux partenaires doivent être présents, munis de leur pièce d'identité. Signature de la convention. Remise de la convention de PACSE signée par l'officier d'état civil et du récépissé d'enregistrement. Contact. Service de l'état civil, des élections et des formalités administratives. Hôtel de ville, parc de la Pérodière, 37 540 Saint-Cyr-sur-Loire. Téléphone 02 47 42 80 60 ou 02 47 42 80 74. Adresse mail etatcivil-election@saint-cyr-sur-loire.com. Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Page 24. Proximité. Vie citoyenne. L'identité numérique France Identité. France Identité est une application officielle qui permet à chaque citoyen de disposer de sa carte d'identité et de son permis de conduire directement dans son smartphone. Simple, sécurisée et accessible, elle facilite également l'accès à de nombreux services en ligne. Au-delà de la simple dématérialisation des documents, France Identité constitue un véritable outil qui permet de prouver son identité et d'accéder à de nombreux services publics, notamment via France Connect, tout en gardant la maîtrise totale de ses données personnelles. Pour bénéficier de France Identité, vous devez posséder une carte d'identité au format carte bancaire, nouveau format déployé depuis 2021, avoir au moins 18 ans, disposer d'un smartphone équipé de la technologie NFC et d'un système d'exploitation récent. Activer et certifier son identité numérique. Lorsque vous renouvelez votre carte d'identité, CNI, et que celle-ci est disponible, vous recevez un SMS pour accéder à l'application France Identité et activer votre identité numérique. Cette action génère un QR code que vous présentez lors du retrait de votre CNI en mairie. Vos empreintes sont comparées avec celles contenues dans votre carte d'identité, ce qui vous permet en un seul passage de récupérer votre carte et certifier votre identité numérique. Dans un délai de 24 à 48 heures, vous recevrez un mail vous invitant à finaliser la création de votre identité numérique. Elle sera alors certifiée. Des démarches simplifiées. France Identité vous permet de créer un justificatif d'identité numérique à usage unique qui remplace la photocopie de la carte d'identité lors de vos démarches. D'importer votre permis de conduire pour l'avoir toujours sur vous en cas de contrôle. De prouver votre identité en face à face en gardant la maîtrise des données partagées. L'identité numérique n'affiche que votre photo, nom et prénom et est vérifiable sans transmission de vos données. Le dispositif facilite l'accès au service France Connect Plus en toute sécurité. Démarche en ligne, déclaration d'impôt, demande d'immatriculation d'un véhicule, etc. Procuration de vote 100% dématérialisée. MaPrimeRénov, demande de travaux pour vos travaux de rénovation énergétique. Mon compte formation, achat de formation. Besoin d'assistance ? Pour finaliser l'activation de votre identité numérique France Identité, vous pouvez écrire à support@france-identité.gouv.fr ou vous rendre dans la maison France Service la plus proche de chez vous. Liste sur france-service.gouv.fr. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet france-identité.gouv.fr. Page 25. Santé publique. Défibrillateur. Un maillage étoffé. En présence d'une personne victime d'un arrêt cardiaque, chaque seconde compte. Dans ces circonstances, un défibrillateur peut faire la différence. À Saint-Cyr-sur-Loire, près d'une trentaine de défibrillateurs automatisés externes ont été déployés. Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt cardiaque, le ministère chargé de la Santé a engagé, depuis 2007, des actions en faveur du développement de l'implantation des défibrillateurs automatisés externes, DAE, et de leur facilité d'accès. En 2018, une loi a renforcé ce cadre législatif et réglementaire en précisant les établissements recevant du public ERP soumis à l'obligation de détenir ce type de matériel. À peine un citoyen sur 10 survit à un arrêt cardiaque faute d'avoir bénéficié au bon moment de l'intervention d'un tiers. Cette personne aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes de premier secours et en relançant le cœur par un choc électrique, défibrillation, le temps que les secours interviennent. Des défibrillateurs fixes et mobiles. Avec près de 30 défibrillateurs sur son territoire, Saint-Cyr-sur-Loire présente un maillage conséquent. Les matériels sont installés dans les endroits les plus fréquentés. Dans les lieux où le temps d'intervention des secours est possiblement long, dans les lieux accessibles en permanence en extérieur, dans la mesure du possible. Ainsi, les équipements sportifs, piscines, gymnases, cours de tennis, etc., les trois établissements scolaires, mais aussi le Moulin Neuf, le CCAS, l'ESCAL, la maison des associations, la mairie, etc., sont équipés en DAE. Pour améliorer ce maillage et augmenter la réactivité en cas de besoin, un véhicule municipal est également équipé, celui de la police municipale. D'ici à la fin de l'année, un DAE accessible 24h sur 24 sera installé à proximité de l'église Saint-Pie X. La cartographie recensant l'ensemble des dispositifs sera prochainement mise en ligne sur le site de la ville. À noter que plusieurs entreprises sont également équipées en DAE, parmi elles Auchan, SKF, Grand Frais ou bien encore U-Express. Qu'est-ce qu'un DAE ? Un défibrillateur automatisé externe est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d'arrêt cardiaque. Accompagné d'un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie, de plus de 40%. Grâce à une assistante vocale, l'utilisateur est guidé pas à pas du massage cardiaque au placement des électrodes. C'est le DAE qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de choquer ou pas. Le saviez-vous ? De nombreux agents municipaux sont formés aux gestes de premier secours. Chaque année, ils bénéficient de sessions dites de recyclage afin de mettre à jour leurs connaissances. Pages 26 et 27. Proximité. Sociale. L'insertion par le travail. La loi prévoit des dispositifs qui permettent de favoriser l'accès au travail de personnes en situation de handicap ou d'en accompagner d'autres vers l'insertion professionnelle. Collaboration avec l'ESAT La Thibaudière pour l'un, accueil de personnes obligées par un TIG pour l'autre, focus sur ces coopérations vertueuses. Alternative à l'emprisonnement, le travail d'intérêt général. Pour la troisième année consécutive, 5 personnes âgées de 18 à 50 ans, condamnées par le juge à effectuer un travail d'intérêt général, TIG, ont été encadrées par des agents des parcs et jardins de la ville et métropolitain. Du 12 au 19 septembre, elles ont procédé à un nettoyage d'une partie des bords de Loire. Sensibilisation et mise en action. Après avoir été sensibilisées à l'éco-citoyenneté à travers la réalisation d'une fresque de la biodiversité, les TIGistes ont découvert leur site d'intervention et les travaux à réaliser. La mission était conséquente avec 300 mètres à nettoyer sur les bords de Loire, du chemin de promenade aux rives du fleuve Royal. Une fois les végétaux taillés et évacués, place au broyat sur site, hormis pour le bois hors gabarit, nécessitant un engin spécifique. Le broyat ainsi obtenu a été distribué à la population le vendredi 19 septembre, en présence des TIGistes. Participer à la distribution du broyat est valorisant pour eux. C'est l'aboutissement du travail réalisé toute la semaine. C'est aussi l'occasion de modifier les préjugés que peut avoir le public quant aux personnes effectuant un TIG, indique Zoé Bonnard, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Bilan positif pour tous. Pour les accompagner sur le terrain, 4 agents ville-métropole ont été mobilisés. C'est une expérience à vivre qui change du quotidien. Nous ne sommes là ni pour les questionner, ni pour les juger. L'équipe a été facile à encadrer avec des personnes motivées, indique l'un d'entre eux. Le TIG peut jouer un rôle déterminant dans cette période charnière en permettant une immersion immédiate dans une équipe de travail, favorisant ainsi la dynamique et le lien social. C'est le troisième TIG collectif que la ville organise. Celui-ci est particulièrement satisfaisant, tant pour ce qui concerne la dynamique de groupe que pour le travail réalisé sur site, car le résultat est particulièrement visible. On retrouve une vue incroyable sur la Loire, confie Julien Hiver, responsable des parcs et jardins. Un des TIGistes commente : « C'est une chance d'être ici. Il vaut mieux être là en plein air qu'entre quatre murs. et un autre d'ajouter « On a été bien accueillis, je me suis sentie bien dans le groupe, on a fait du bon boulot, c'était très physique. » En Indre-et-Loire, 126 communes sont partenaires du TIG et environ 250 personnes sont concernées. Chaque année, une dizaine de TIGistes sont invités à poursuivre dans les services qui les ont accueillis, le plus souvent en contrat à durée déterminée, indique Fabrice Van Quick, référent territorial du travail d'intérêt général en Indre-et-Loire. Entretien des espaces verts, faire appel à un ESAT. Établissement ou service d'aide par le travail, les ESAT sont des structures qui permettent aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Cette structure accueille des personnes qui n'ont pas acquis assez d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou en entreprise adaptée à leurs besoins. À Saint-Cyr-sur-Loire, la collaboration avec l'ESAT La Thibautière a commencé en 2012. Celle-ci est formalisée par un marché public, entretien des espaces verts, appelé réservé car seuls les ESAT ou les entreprises adaptées, EA, peuvent répondre à l'appel d'offres. Des missions d'entretien variées. Une équipe de 7 personnes intervient sur le domaine public communal pour entretenir soit les espaces verts de la ville, squares, parcs, prairies et boisements, soit se localiser dans les zones d'aménagement concerté, ZAC, avant rétrocession. Les ZAD disposent de son propre matériel, telle une entreprise espace vert. Les travailleurs vont réaliser toutes sortes de tâches tout au long de l'année, selon un calendrier et un plan d'intervention prédéfini. Tonte toutes les 3 semaines, taille de haie 2 à 4 fois par an, entretien des massifs une fois par mois, fauchage une fois par an, ou bien encore entretien des terrains acquis par la ville, afin d'éviter l'état de friche avant aménagement deux fois par an. Une équipe expérimentée dédiée. Les travailleurs peuvent présenter un handicap mental et souffrir d'autisme, de troubles autistiques ou de déficience intellectuelle. Sauf cas particuliers, ils ont tous été formés à la manipulation d'outils spécifiques, débroussailleuses, tailleuses et autres tondeuses autoportées. Les équipes ne sont pas nécessairement accompagnées par un moniteur, car certaines d'entre elles sont autonomes, composées de travailleurs expérimentés. Le but est de les faire progresser, de préparer un retour à la vie ordinaire et d'envisager une embauche à terme, indique Kevin Fraioli, moniteur principal atelier espace vert à l'ESAT. Les agents qui composent l'équipe sont heureux de travailler en espace vert et sont habitués au territoire saint-cyrien. Ils sont en effet libres de choisir ce qu'ils souhaitent faire à l'ESAT. Généralement, ceux qui choisissent les parcs et jardins y restent toute leur carrière, sauf cas de fatigue physique qui pourrait nécessiter un changement d'activité, précise Kevin Fraioli. À la Thibaudière, 35 salariés assurent l'encadrement de 147 travailleurs pendant les ateliers, l'accompagnement médico-social et les autres services. Outre l'atelier entretien et création d'espaces verts, les travailleurs peuvent aussi s'impliquer en restauration, en blanchisserie et en sous-traitance industrielle. Des mises à disposition ou de détachement en entreprise sont également proposées sous forme de contrats tripartites. En chiffres, 8,7 hectares de tonte, 8800 m2 d'entretien de massifs, 600 m2 d'entretien des haies, 2 hectares d'entretien de terrain et 3 hectares de fauchage. Page 28. Focus. Vie économique. Bottega Bastiano, la Dolce Vita à Saint-Cyr. L'enseigne Bottega Bastiano vient d'être labellisée meilleure épicerie fine de France. Une récompense d'excellence pour Bastien et Annie Gersch qui ont choisi d'installer leur commerce à Saint-Cyr-sur-Loire en 2022. Rencontre. Ce titre de meilleure épicerie fine de France leur a été décerné par le Salon du Gourmet, le plus grand salon professionnel dédié à l'épicerie fine dans l'Hexagone avec près de 300 exposants et 4500 visiteurs. Le concours éponyme récompense des points de vente d'exception qui réinventent le commerce de proximité avec audace, exigence et passion. Question. Que représente cette médaille d'or? Réponse de Bastien Gersch. Ce prix est la plus belle récompense que nous pouvions recevoir. C'est une distinction prestigieuse et reconnue dans le secteur. Elle nous a offert une visibilité supplémentaire, car de nouveaux curieux sont venus nous rendre visite. Nous sommes fiers d'avoir représenté notre ville et la Touraine à l'échelle nationale. Question. Qu'a évalué le jury? Réponse de Bastien Gersch. Au-delà de la qualité des produits, le jury a évalué l'originalité du concept, la mise en valeur de l'offre, le sourcing responsable, l'ancrage local, la digitalisation, le centre du service et l'amour du métier. Question. Quelle est l'histoire de l'épicerie? Réponse de Bastien Gersch. L'idée est née en 2018, lors d'un voyage en Italie avec ma femme. Épicurien dans l'âme, nous avons été surpris par l'authenticité de la gastronomie locale et avons fait le constat qu'en France, la richesse du terroir italien peinait à être représentée. Ce voyage, couplé à mon envie d'entrepreneuriat et à une perte de sens professionnel, a fait naître un déclic. Ma femme m'a donné l'impulsion nécessaire. Nous avions très envie de travailler ensemble. 18 mois plus tard, le magasin ouvrait. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 5 personnes, dont un alternant. Question : quel est le concept de votre magasin ? Réponse de Bastien Gersch : l'épicerie fine 100% italienne, qui représente 70% de notre activité, les 30% restants étant dédiés à la restauration. Depuis l'ouverture, nous avons pu créer une zone traiteur et un coffee shop. Nous sommes en veille permanente sur les nouveautés. Plus de 1000 références sont sélectionnées avec exigence. Nos voyages en Italie sont également toujours très inspirants et l'occasion d'aller à la rencontre de nos fournisseurs. Nous aimons ce qui est simple et efficace, la cuisine familiale. Nous recherchons les produits bruts, l'authenticité, car derrière chaque produit se cache une histoire. Question : pourquoi avoir choisi Saint-Cyr ? Réponse de Bastien Gersch : habitant au nord de Tours et très au fait de la grande distribution, je connaissais les statistiques du territoire, sa vie économique, les modes de consommation entre le nord et le sud de Tours. Je savais que je pouvais rencontrer un besoin et une clientèle à Saint-Cyr-sur-Loire. Et toute la zone économique au nord était en devenir avec un beau potentiel. Aujourd'hui, tout indique que nous avons fait les bons choix. Notre histoire est un succès, couronnée par ce trophée que nous sommes allés chercher à Paris en septembre dernier. Page 29. Patrimoine. L'horloge Lusso de l'intérieur. Installée en 1936, elle surplombe l'ancien hôtel de ville, baptisé aujourd'hui Espace Jacques Chirac. L'horloge Lusso fait partie du patrimoine de la ville. Pour y accéder, il faut monter au deuxième étage de l'ancienne mairie et ouvrir une trappe qui laisse apparaître un escalier amovible. C'est un voyage dans le temps. Le mécanisme est situé au milieu de la pièce. Il est encore raccordé aux trois cadrans de l'horloge, même si celui-ci n'est plus actif. En effet, depuis plus de 20 ans, l'horloge a été automatisée. Un horloger renommé. C'est aux archives municipales que nous avons retrouvé le devis de l'horloge d'un montant de 20 345 francs, daté de 1934. L'entreprise J&J Lusso Frères, spécialisée dans les horloges publiques, était le plus important fabricant d'horloges avec des modèles installés partout dans le monde. Un mécanisme de pointe. L'horloge choisie par la ville était dotée de trois cadrans, ce qui était rare à l'époque, mais également d'une cloche en bronze de 192 kg sur lesquelles les heures sonnaient à répétition. Dotée d'un remontoir d'égalité, elle était aussi pourvue d'un remontage électro-automatique par moteur. Pages 30 et 31. Focus. Vie associative. Se mobiliser pour l'accessibilité. Dans un contexte d'accès égal à la vie et aux espaces publics, les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Les actions sont menées sur le terrain, côte à côte, avec des associations engagées. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d'une accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps. Tous les domaines de la vie sont concernés : santé, vie citoyenne, déplacement, logement, scolarisation, emploi, culture, loisirs, etc. Par le biais de sa commission communale pour l'accessibilité qui réunit des acteurs du handicap et des personnes âgées, la ville réfléchit aux moyens à développer pour faciliter l'accessibilité au plus près du quotidien des personnes concernées. En lien avec le tissu associatif local, le parasport se développe également sur le territoire. Association Loisirs et Handicap Touraine, des sorties pour tous. Nicole Bertrand est présidente de l'association Loisirs Handicap Touraine depuis 2022. Prendre soin des autres est une seconde nature pour cette dynamique sexagénaire que la vie n'a pas épargnée. Mon père était handicapé à 50 ans. Et ma fille Noémie, aujourd'hui âgée de 38 ans, a fait une méningite foudroyante à 11 mois. Là, tout a basculé. Je me suis aussi occupée de mon mari atteint de la maladie de Charcot pendant 2 ans. Maintenir le lien social. L'objectif de Nicole est d'organiser des sorties pour les personnes en situation de handicap, moteur, cérébral, mais aussi pour les personnes souffrant de pathologies lourdes, afin de rompre l'isolement dans lequel elles se trouvent. Je propose un planning de sortie. Chaque adhérent est libre de participer et organise son déplacement avec fil blanc par exemple. On peut être jusqu'à 30 participants pour le repas de Noël ou notre voyage à la mer. On aime aussi participer à Saveur au jardin ou au ciné jeudi. L'année est marquée par une grande sortie, celle en bord de mer, changeante et fortifiante pour les adhérents. Les Sables d'Olonne ont été choisis comme future destination. La présidente indique : c'est la sortie la plus chère. Le bus aménagé avec plateforme coûte 2200 euros. Il faut trouver un restaurant adapté aux personnes à mobilité réduite et avoir la présence suffisante d'accompagnants. Ils sont essentiels pour encadrer le groupe, pour pousser les fauteuils ou aider les adhérents à manger. Pour Nicole, L'éveil de la personne en situation de handicap est primordial. Les sorties sont stimulantes, elles permettent d'établir un lien social et apportent un peu de joie dans le quotidien des adhérents. Courir les 10 km de Tours. Pour la quatrième fois, l'association a participé à l'événement Phare de Tours. Des jeunes du club de foot de Tours ont pris contact avec l'association en 2022 pour courir en sa faveur. Trois personnes ont poussé deux fauteuils, dont celui de ma fille. Des jeunes adorables qui ont couru pour nous, sous le soleil, avec beaucoup de générosité, commente Nicole Bertrand. Son organisation bien en place, elle n'en est pas moins à l'écoute de partenariats, soutiens ou suggestions de sorties. Elle espère pouvoir organiser une brocante dont les fonds permettraient de financer leur sortie annuelle à la mer. La Compagnie du Bonheur s'est installée à Saint-Cyr-sur-Loire en 2000. Elle est dirigée par Mireille Lecoustre, professeure de théâtre et de dessin, devenue sourde suite à une tumeur pour laquelle elle a été opérée entre 10 et 13 ans. Si les cours de théâtre constituaient le socle fondateur de l'association, l'enseignement de la langue des signes française est apparu comme une évidence en 2010. Une langue unique, accessible à tous. Tout le monde peut apprendre à signer, dès 7 ans et en présence des parents. L'apprentissage est difficile, mais à la clé, il y a la découverte d'un univers singulier. Pour progresser et s'enrichir, il est nécessaire de communiquer avec des sourds, par exemple lors de cafés signes organisés une fois par mois à Tours. Après 2 ou 3 ans de cours, on peut signer de manière qualitative, indique Mireille Lecoustre. Cette langue est unique. Elle a une singularité visuelle, corporelle et syntaxique. Elle est complète avec sa grammaire, son vocabulaire, sa conjugaison. Si certains élèves sont là par curiosité ou pour la beauté de la langue, d'autres souhaitent s'orienter vers un parcours diplômant qu'ils pourront suivre à Paris. Des cours et des spectacles. Jérôme Pascal, né sourd, diplômé de l'INJS Saint-Jacques Paris, assure l'enseignement de niveau 1, tandis que Mireille gère le niveau 2. Elle commente « Jérôme a beaucoup d'humour et le cours peut être parfois déroutant parce qu'il fait découvrir le monde du silence mais dans une communication riche. Moi, je suis devenue sourde et j'ai gardé ma voix grâce au théâtre. La voix étant un muscle, elle s'atrophie si on ne l'utilise pas. J'ai appris à lire sur les lèvres, mais la LSF est ma langue naturelle comme tous les sourds profonds. Tous les spectacles sont accessibles aux sourds et aux entendants. Depuis 15 ans, avec sa fille Natacha, présidente de la compagnie, Mireille met en scène des pièces de théâtre et comédies musicales en LSF. Le public adore, confie-t-elle. L'accessibilité progresse. Mireille Lecoustre souligne l'importance de sa présence à la Commission communale pour l'accessibilité. Les films projetés lors des ciné-jeudis sont aujourd'hui sous-titrés, ce qui n'est pas le cas dans les autres cinémas de Tours. Sur son site internet, la mairie a aussi mis en ligne des démarches administratives signées. C'est très bien fait, tout comme la soirée des vœux à la population qui est entièrement signée. Le monde du silence. Le monde des sourds est un monde parallèle à celui des entendants. C'est pour cela que je me suis engagée dans cette voie. Par le théâtre, chacun peut entrer dans le monde sourd d'une manière ludique. Si les entendants signent et respectent les sourds, alors un échange équilibré s'installe. Mireille, très attachée à l'égalité entre les deux mondes, conclut « Ma démarche, c'est de rendre le théâtre et la culture accessibles aux sourds, mais également de montrer aux entendants que notre monde peut être drôle et poétique. » Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.compagniedubonheur.fr. Page 32. Focus. Vie économique. Bienvenue aux nouveaux acteurs économiques. Alimentation. La Passion du Fromage, Crèmerie Fromagerie, 266 Boulevard Charles de Gaulle, téléphone 02 47 37 00 35. Adresse mail saintcyr@lapassiondufromage.fr. Site internet www.lapassiondufromage.com. Santé. Bertrand Gilbert, Octave Tournor, audioprothésiste, 58 Boulevard Charles de Gaulle, téléphone 02 47 41 57 80. Adresse mail saint-cyr@octave-audio.fr. Service. Christophe Poirier, CP Multiservice. Service à la personne, 79 Quai des Maisons Blanches, téléphone 06 31 52 82 50. Adresse mail cpmultiservice37@gmail.com. Site internet www.cpmultiservice.fr. Cyrix, vente de désherbeurs mécaniques et robots tailleux. 2 rue de la Moisanderie, téléphone 07 57 69 12 25. Site internet www.cyrix.fr. Anaïs Renoux et Lucie Vigna, La cabine. Centre d'épilation électrique. 82 boulevard Charles de Gaulle. Téléphone 09 81 49 67 40. Adresse mail lacabine37@gmail.com. Site internet lacabine37.fr. Héloïse Gaudron, Meet My Art Studio. Photographe. Téléphone 07 49 17 52 98. Adresse mail contact@meetmyart-studio.com. Site internet www.meetmyart-studio.com. Changement de propriétaire. Caroline Denisé, Atelier des formes et des couleurs. Salon de coiffure mixte, 41 rue Calmette. Téléphone 02 47 51 26 46. Instagram autour 37. Laura Brun, L'Atelier de la Pinça. Restaurant. Téléphone 06 66 61 29 94. Adresse mail atelier.pinça@gmail.com. Site internet l'atelier-pinça-saint-sur-loire.ilbute.com. Pour retrouver l'annuaire des professionnels en ligne, un QR code est à flasher. Page 33. Regardez-le. Pour notre cadre de vie et pour le bien-être de tous. C'est le premier numéro de votre magazine municipal depuis la rentrée. Nous espérons que vous avez pu, toutes et tous, profiter d'un été agréable et ressourçant, en famille ou entre amis. Vous avez pu le découvrir à travers ces pages. Nous avons mis en avant une autre de nos priorités qui nous tient à cœur, l'amélioration du cadre de vie pour chacune et chacun d'entre vous. Vous découvrirez très bientôt un tout nouvel espace de convivialité et de culture dans le parc de la Pérodière, le théâtre de verdure. Cet aménagement s'intégrera harmonieusement au paysage, offrant un lieu idéal pour accueillir concerts, spectacles et manifestations en plein air. C'est une réalisation qui illustre parfaitement notre volonté de conjuguer nature et culture pour enrichir la vie locale. Dans le même esprit, nos efforts en matière de fleurissement continuent de donner à notre ville son visage accueillant et coloré. Chaque saison, les massifs, jardinières et aménagements paysagers sont repensés afin d'apporter de la fraîcheur, de la diversité et de l'harmonie dans nos quartiers. Le choix des végétaux, toujours plus respectueux de l'environnement et adaptés à notre temps, témoigne d'un engagement durable. Ces compositions florales ne sont pas qu'un plaisir pour les yeux, elles contribuent aussi au bien-être quotidien en créant des espaces plus agréables, plus apaisés, où l'on aime se promener et se retrouver. Le travail minutieux des agents municipaux qui conçoivent et entretiennent ces fleurissements tout au long de l'année est salué par les habitants comme par les visiteurs. C'est grâce à cette constance et à ce savoir-faire que Saint-Cyr-sur-Loire conserve une identité paysagère forte, reconnue et appréciée et qu'elle peut revendiquer deux fleurs d'or. Enfin, plusieurs chantiers actuellement en cours participent eux aussi à l'amélioration durable de notre cadre de vie. Ces travaux concernent aussi bien la rénovation des espaces publics que la modernisation des voiries ou l'aménagement de nouveaux équipements. Ils peuvent parfois nécessiter un peu de patience, mais ils traduisent une volonté claire. Préparer la ville de demain sans négliger le confort d'aujourd'hui. Les circulations piétonnes et cyclables sont repensées pour plus de sécurité et de fluidité. Les espaces verts sont élargis ou réaménagés pour favoriser la fraîcheur en période estivale. Les infrastructures municipales rénovées pour offrir des services modernes et accessibles à tous. Chaque projet vise à renforcer la qualité de vie en anticipant les besoins des habitants et en s'inscrivant dans une démarche respectueuse de l'environnement. Saint-Cyr-sur-Loire continue ainsi à cultiver un juste équilibre entre dynamisme, nature et qualité de vie. Car vivre à Saint-Cyr, c'est pouvoir profiter d'un environnement apaisé, embelli et tourné vers l'avenir, au bénéfice de toutes les Saint-Cyriennes et de tous les Saint-Cyriens. Les élus de la liste, Saint-Cyr, notre cœur, notre force. Cette tribune est un rendez-vous pour nombre d'entre vous et l'occasion de vous faire part de notre activité municipale. Ainsi, nous pouvons partager les valeurs sociales, écologiques et humanistes qui nous animent. Au cours de ce mandat, nous avons renouvelé notre attachement à Saint-Cyr-sur-Loire et notre volonté d'élargir l'angle et la hauteur de vue, parfois au-delà des simples intérêts municipaux. Le partage, l'entraide et la solidarité ont été mis à rude épreuve dans ces temps bouleversés par une politique nationale jusqu'au boutiste, la course effrénée des extrêmes vers le pouvoir et une politique internationale belliqueuse. Heureusement, nos associations sont là pour défendre le vivre ensemble et l'inclusion. À la métropole, nous observons la férocité avec laquelle s'opposent économie et écologie, progrès et préservation des ressources. En réalité, loin des clivages politiques, c'est un monde en constante évolution qu'il faut continuer d'inventer pour vivre mieux. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour permettre aux Saint-Syriennes et Saint-Syriens d'être novateurs et de s'inscrire dans le sens de l'histoire, tout en restant fiers de la singularité de notre commune. Progrès social, solidarité, urbanisme raisonnable, pluralisme, intergénérationnalité ne sont pas de vains mots. Bientôt, nous retrouverons le chemin des urnes. Ensemble, nous écrirons une nouvelle histoire pour Saint-Cyr, fidèle à son essence, mais tournée vers le monde de demain. À très vite. Les élus de la liste Saint-Cyr pluriel. Le conseil municipal s'est élu de proximité. Les dates des prochaines élections municipales ont été arrêtées par le gouvernement en cette fin de période estivale. Nous retournerons aux urnes les 15 et 22 mars 2026. Le conseil municipal est sans nul doute l'élu le plus proche de ses électeurs. Par son action, ses interventions, il peut influer sur la vie de sa commune. À tous les niveaux de la République, rares sont les élus bénévoles, leur investissement et leur disponibilité sont d'autant plus louables. Voilà bientôt 6 ans que j'ai, grâce à vos voix, pu à mon humble niveau influer sur la vie publique communale. Seul représentant de ma liste, je me suis pleinement investi dans nombre de sujets, de commissions, de réunions, avec toujours le souci d'être constructif et efficient. Même si tout reste une action de l'ombre, je vous avais promis d'être force de proposition, je pense l'avoir été. Au terme de ce mandat, je vous remercie à nouveau de la confiance que vous avez bien voulu m'accorder. Thierry Davot, élu de la liste, en avant Saint-Cyr. Pages 34 et 35, en images. Photo, légende. Le 5 juillet dernier, les Saint-Cyriens étaient au rendez-vous pour une belle et riche édition de Quartier d'été. Photo, légende. Le 1er juillet, 172 élèves de CM2 scolarisés dans les écoles Saint-Cyriennes ont profité de la traditionnelle cérémonie de passage en 6e à l'Escale. Photo, légende. Vous avez été 1200 à venir dimanche au parc de la Tour, profiter du festival des marionnettes en balade, concocté avec soin par l'équipe culturelle de la ville. Photo, légende. Les policiers municipaux et leurs partenaires se sont rendus sur le marché, dans le cadre de l'opération Un café avec un policier. Photo, légende. De nombreux bénévoles étaient présents le samedi 6 septembre sur le complexe Guy Dru pour présenter leur association ou club sportif. Photo, légende. La ville accueille de nombreuses expositions tout au long de l'année, notamment au pavillon de la Création et au pavillon Charles X, comme ici, celle de Rémoux et Françoise Géant, courant septembre. Photo, légende. Mardi 22 juillet, l'équipe de la bibliothèque municipale a proposé un temps de lecture très apprécié sur la place du marché Mailloux. Quatrième de couverture, le vendredi 6 et le samedi 7 février 2026 à 20h30, retrouvez l'Escale Cabaret Club. Tarif de 25 à 32 euros, billetterie ouverte, réservez vos places dès maintenant sur le site web billetterie.saint-cyr-sur-loire.com ou par téléphone au 02 47 42 80 25.